Jesus Christus.
Célébration de la Passion du Christ en Haïti, et ce malgré la situation cataclysmique décrite sur place par l'ONU. La foi reste une source d'espérance pour les fidèles, selon l'évêque de Jérémie, son témoignage en début de ce journal. Dans le reste de l'actualité internationale, Alep, au nord de la Syrie, visé par d'importants raids israéliens, au moins 42 militaires syriens et combattants du Hezbollah libanais ont perdu la vie. Aux Nations Unies, l'avenir du groupe d'experts chargé de surveiller les sanctions contre la Corée du Nord mis en péril. Moscou a posé hier son veto pour le renouvellement de son mandat. Décryptage avec notre correspondant en Corée. Et puis pour finir dans ce journal, nous irons au Tchad où 10 des 20 candidats à la prochaine élection présidentielle ont été écartés. Les candidats concernés menacent de boycotter le scrutin.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. En ce vendredi saint, la Passion du Christ est commémorée par les fidèles catholiques partout dans le monde. Au Vatican, deux célébrations auront lieu en présence du pape. La première à 17h pour l'Office de la Passion dans la Basilique Saint-Pierre. La deuxième à 21h15 à Rome pour le chemin de croix autour du Colisée. Ce chemin de croix qui résonne dans de nombreux pays gangrénés par la guerre et la violence, tels que Haïti. La situation est désormais cataclysmique selon l'ONU. Depuis le début de l'année, 1554 personnes ont été tuées dans le pays où les gangs armés font la loi. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme appelait hier à une mise en œuvre plus efficace de l'embargo sur les armes, fuyant la violence. 243 personnes, dont 163 ressortissants français, ont été évacuées aujourd'hui vers la Martinique. Mais pour les fidèles haïtiens toujours sur place, la foi reste vive. Dans le diocèse de Jérémie, l'évêque Monseigneur Gontran Descostes témoigne du lien actuel entre les souffrances du Christ et celles du peuple haïtien.
Le peuple haïtien vit vraiment un véritable chemin de croix, et voilà pourquoi le peuple haïtien se retrouve, et le chemin de croix de Jésus, le portement de sa croix, les chutes, les oppressions, les mauvais traitements. Donc c'est un peuple qui est opprimé, mais maintenant c'est le vendredi saint. Et voilà pourquoi le vendredi saint, les gens vivent ça avec intensité, avec beaucoup d'émotion, parce que c'est ce qu'ils vivent eux-mêmes. Les souffrances de Jésus, la passion de Jésus, c'est leur souffrance, c'est leur passion aussi, et comme peuple, et qui est confronté à tant de malheurs, à tant de détresse, à tant d'épreuves. Mais dans l'exercice du chemin de la croix et la célébration de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les gens trouvent le courage, la force dans les épreuves de toutes sortes qui l'accablent, et la capacité à souffrir. C'est un peuple qui vit son vendredi saint, qui est toujours dans le vendredi saint, et qui espère qu'il y aura un dimanche de Pâques.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. L'espérance également au cœur du message de Pâques des patriarches et chefs d'église de Jérusalem. Les dirigeants chrétiens de Jérusalem ont réitéré dans un message leur appel à un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, à nouveau ciblé par des bombardements ce vendredi. L'enclave palestinienne fait face à une famine imminente selon le Programme alimentaire mondial. Hier, la Cour internationale de justice a ordonné à Israël d'assurer une aide humanitaire de toute urgence à la population civile. Puis par ailleurs, en ce vendredi saint, le préfet du Dicastère pour les églises orientales a à nouveau cette année lancé une collecte pontificale pour la Terre Sainte. Plus d'informations à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. Conséquence indirecte de la guerre à Gaza, célébration de Pâques sous haute surveillance ce week-end en France. Le ministre français de l'Intérieur a demandé au préfet de déployer des forces de l'ordre devant toutes les églises catholiques et temples protestants. Les tensions au Proche-Orient, mais aussi le niveau très élevé de la menace terroriste après l'attentat revendiqué par l'État islamique à Moscou, exige le maintien d'une extrême vigilance, selon le ministre Gérald Darmanin. Dans ce contexte de tension dans la région du Proche-Orient, 42 militaires syriens et combattants du Hezbollah libanais ont été tués dans des raids israéliens qui ont visé vendredi à l'aube la région d'Alep dans le nord du pays. Les frappes ont également fait des dizaines de blessés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la correspondance régionale de Paul Khalife.
Les avions israéliens ont tiré des missiles air-sol sur trois sites différents autour d'Alep, dont le complexe militaro-industriel de Sfaira, proche de l'aéroport, conjointement opéré par l'armée syrienne et des groupes pro-iraniens. Plusieurs missiles ont atteint leur cible malgré l'entrée en action de la défense anti-aérienne syrienne, et de fortes explosions ont été entendues dans la ville d'Alep, distante de plus de 10 kilomètres. L'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte que les frappes ont visé des dépôts de missiles appartenant au Hezbollah libanais et des usines relevant du ministère syrien de la Défense. Une source militaire syrienne a confirmé les raids qui ont fait, selon l'agence officielle Sana, plusieurs tués et blessés parmi des civils et des soldats. Il s'agit des raids aériens les plus massifs et les plus meurtriers menés par Israël en Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Depuis le début de l'année, les avions israéliens ont visé la Syrie à 18 reprises, faisant quelque 80 morts, dont 13 membres des gardiens de la révolution iranien et autant de combattants du Hezbollah. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Dans le reste de l'actualité internationale, Pékin et Moscou plaident pour un assouplissement des sanctions visant la Corée du Nord. Lors d'un vote du Conseil de sécurité de l'ONU hier portant sur le renouvellement du comité de surveillance des sanctions à l'encontre de Pyongyang, la Chine s'est abstenue, la Russie a elle voté contre le renouvellement. Signe des tensions croissantes au sein du Conseil de sécurité, non sans conséquences. À Séoul, les précisions de Jean Labruyère.
Publié début mars, le premier des deux rapports annuels du comité d'experts pourrait être le dernier. Il avait mis en lumière le rôle des hackers du régime, le nombre de travailleurs nord-coréens à l'étranger, ainsi que les différentes méthodes utilisées par Pyongyang pour obtenir des devises tout en contournant les sanctions. Un outil crucial dans le contexte géopolitique actuel, selon Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies.
Depuis des mois, la Corée du Nord fournit la Russie en matériel militaire en soutien à sa guerre d'agression en Ukraine, et ce, en violation de multiples résolutions que la Russie a elle-même votées. Un nouvel essai nucléaire ne peut être exclu. Dans ce contexte, qui peut sérieusement douter de la nécessité d'un groupe d'experts indépendants permettant de documenter les violations des résolutions de ce Conseil?
Pour justifier son veto, le représentant russe a assuré que le comité avait servi les intérêts occidentaux et bloquait la capacité du Conseil à pouvoir réexaminer la pertinence des sanctions dans le temps, un argument rejeté par l'ambassadeur français.
L'on ne nous dise pas qu'il fallait modifier ou sacrifier le mandat du groupe d'experts pour permettre une discussion générale sur la révision des sanctions. Le projet de résolution présenté aujourd'hui proposait même qu'un tel réexamen ait lieu d'ici avril 2025.
Le comité doit continuer à travailler jusqu'au 30 avril avant la fin de son mandat. Sa disparition ne remet pas en cause la continuité des sanctions contre la Corée du Nord. À Séoul, Jean Labruyère pour Radio Vatican.
Et en réaction au veto de Moscou, l'Union européenne dénonce une tentative de dissimulation des transferts d'armes entre la Corée du Nord et la Russie, notamment pour l'utilisation dans la guerre en Ukraine. L'Ukraine, où trois centrales thermiques ont été endommagées la nuit dernière, provoquant des coupures de courant dans certaines régions. L'Union africaine félicite Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à la présidentielle au Sénégal. Dans son communiqué, le président de la commission de l'UA se réjouit également de l'acceptation unanime des résultats par toute la classe politique sénégalaise. Au Tchad, en revanche, l'élection présidentielle du 6 mai prochain inquiète. Le Conseil constitutionnel a validé 10 dossiers de candidature sur les 20 enregistrés, de quoi déclencher la colère des candidats écartés qui menacent de boycotter cette élection dont l'issue est selon eux connue d'avance. On fait le point à N'Djamena avec notre correspondant Abba André Dieudonné.
Selon ces personnalités politiques, les raisons invoquées pour invalider leur candidature sont fallacieuses. Ils estiment que c'est le pouvoir de transition qui a donné l'ordre aux membres du Conseil constitutionnel de disqualifier les candidats gênants pour baliser l'autoroute à ce qu'ils qualifient de la dynastie qui sera consacrée dès le premier tour. Ils lancent un appel à toutes les forces vives de la nation de se mobiliser avec tous les moyens légaux pour sauver le pays de la dictature sans donner de détails sur des actions à mener. Ils récusent le président du Conseil constitutionnel et exige que le processus électoral en cours soit repris pour garantir le minimum de crédibilité. En revanche, dans le QG des candidats qui ont passé le contrôle, les militants, sympathisants et certains partis et regroupements politiques se mobilisent pour soutenir leur candidat de choix. Tout ceci sous fond de crise socio-politique suite à l'assassinat de l'opposant Yahya Diallo il y a un mois, l'augmentation injustifiée des produits pétroliers et le manque d'électricité dans la ville sans explication qui font grincer des dents dans la rue de N'Djamena. C'est pour la première fois dans l'histoire politique du Tchad que le président et son premier ministre vont s'affronter aux urnes. La campagne électorale pour le premier tour commence le 14 avril pour prendre fin le 4 mai prochain. Abba André Dieudonné N'Djamena, Radio Vatican.
Et puis on l'entendait donc parmi les candidatures validées, il y a celle du président de transition Mahamat Idriss Déby Itno ainsi que celle de son premier ministre, Dr Succès Masra. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. Prochain rendez-vous avec l'actualité francophone du pape du Vatican, de l'Église et du monde. Ça sera à 18h, heure de Rome. Belle journée en attendant.